Depuis Jakarta, voici La Voix de l'Indonésie. Diffusion en français, La Voix de l'Indonésie présente des actualités, des informations et des divertissements divers sur l'Indonésie. Et c'est ici que vous pourrez accéder à nos émissions tous les jours sur SW3325 et 4755 kHz ou via le site web www.voinews.id et l'application RRI numérique. La voix de l'Indonésie, de l'Indonésie au monde.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditrices et auditeurs, bonsoir. Voici la voix de l'Indonésie présente le journal d'aujourd'hui avec Maudry. Il y a quelques événements informés entre autres. KKP veuille à ce que les équipages des navires de pêche battant pavillon indonésien soient certifiés. Journée mondiale du braille. Le ministre des Affaires sociales invite le public à protéger les droits des personnes handicapées. DTW Ulundanu vise 1 million de visiteurs en 2025 avec des spectacles culturels. Gapki soutient la politique du président visant à faire de l'huile de palme un atout stratégique pour le pays. Programme de repas nutritifs gratuits est prêt à démarrer à 190 points dans 26 provinces. 2025, il n'y aura plus d'importation de 4 produits alimentaires. Et producteurs d'huile de palme soutiennent le contrôle du président sur les produits à base d'huile de palme. Mon cher Jeter, voici la nouvelle en complet. Le ministère indonésien des Affaires maritimes et de la pêche, KKP, garantit que tous les membres de l'équipage de pêche travaillant sur des navires battant à pavillon indonésien satisfont aux exigences et possèdent une certification d'expertise adéquate. Le directeur général des pêches de capture du KKP, Lotharia Latif, a déclaré dimanche dans sa déclaration que le KKP offrirait également des facilités en 2025 pour répondre aux exigences de travail de l'équipage des navires, sur la base d'une lettre circulaire du ministre des Affaires maritimes et de la pêche. Les équipages des navires de pêche ont encore jusqu'en 2025 pour remplir des documents tels que des certificats de poste, des livrets de marins, des accords de travail maritime et des certificats de santé, le certificat d'expert nautique pour bateaux de pêche délivré par le ministère indonésien des Transports jusqu'en décembre 2023 est toujours valable comme condition d'emploi. Le ministre indonésien des Affaires sociales, Saifullah Yusuf, invite toutes les parties à participer activement à la création d'un écosystème qui respecte, protège et réalise les droits des personnes handicapées à l'occasion de la Journée mondiale du braille qui a été célébrée le 5 janvier, alors qu'il assistait dimanche à la commémoration de la Journée mondiale du braille dans la zone de la statue du cheval de Monas à Jakarta. Saifullah a souligné que les personnes handicapées ont les mêmes besoins que les personnes non handicapées. Il estime que les personnes handicapées ont besoin d'une protection et d'une sécurité sociale ainsi que du respect de leurs droits fondamentaux de la part de l'État et de l'ensemble de la communauté qui doit se soucier de la protection et du respect des personnes handicapées. Il a ajouté qu'actuellement, le gouvernement traite les réglementations gouvernementales concernant les concessions et les incitations pour les personnes handicapées qui faciliteront l'accès des personnes handicapées aux services de base. Le directeur de l'attraction touristique d'Ulundanu Bratan, DTW Tabanan Bali, vise 1 million de visites touristiques en 2025. Le responsable des relations publiques de l'attraction touristique d'Ulundanu Bratan à Tabanan Bali a expliqué dimanche que cet objectif était motivé par la présence de spectacles artistiques et culturels de spécialités balinaises, comme la danse kecha, la parade gebongan et la danse baron, qui ont lieu 2 fois par an, soit en juillet et décembre. Cette performance implique 20 banjars et aura lieu dans 2 principales attractions touristiques Ulundanu Bratan et de Bloom Garden en 2024. Le nombre de visites touristiques sera enregistré à 800 000 personnes, en légère baisse par rapport aux 850 000 personnes de 2023 en raison des intempéries en fin d'année. Pendant ce temps, pour les billets d'entrée en 2025, les touristes nationaux adultes seront facturés 50 000 roupies à la fin de la semaine et les touristes étrangers adultes 75 000 de roupies. L'Association indonésienne des entrepreneurs en huile de palme, GAPKI, apprécie la déclaration du président Prabowo Subianto qui a souligné que l'huile de palme est un bien de l'État qui doit être protégé. Le président général de GAPKI, Edi Martono, a déclaré dimanche dans sa déclaration qu'il espérait le soutien des chefs régionaux ainsi que des responsables de la police nationale indonésienne et de l'armée nationale indonésienne, pour protéger l'huile de palme en tant qu'atout important pour l'économie indonésienne. Et d'y ajouter que, sous la direction du président Prabowo Subianto, le problème du vol et du pillage de l'huile de palme survenu dans plusieurs régions pourrait être immédiatement résolu. Il espère que le projet de loi sur les produits stratégiques sera bientôt adopté pour assurer une protection juridique à l'industrie de l'huile de palme et un confort pour faire des affaires. Le chef des communications présidentielles indonésienne, Hassan Nasbi, dans un communiqué reçu dimanche, a déclaré que le programme de repas nutritifs gratuit MBG a officiellement démarré à 190 points répartis dans 26 provinces. Hassan a expliqué que ce programme vise à répondre aux besoins nutritionnels des tout-petits, des écoliers, des étudiants, des femmes enceintes et allaitantes. Hassan a expliqué que chaque point géré par la cuisine de MBG sera surveillé par le chef de l'unité de service de distribution de nutrition SPPG, des nutritionnistes et des comptables pour garantir le bon fonctionnement de la qualité nutritionnelle et de la distribution alimentaire. Ce programme met également l'accent sur l'importance de la durabilité en réduisant les déchets et en utilisant des équipements réutilisables. Le ministère de l'Agriculture, Kementan, a pour objectif de ne pas importer 4 produits alimentaires en 2025, à savoir le riz, le maïs, le sel de consommation et le sucre de consommation. À ces Objectif, le vice-ministre de l'Agriculture Sudaryono, dans un communiqué publié dimanche, a espéré que les agriculteurs de la génération y joueraient un rôle dans la réalisation des objectifs en s'impliquant directement dans la plantation de produits afin que la production agricole nationale puisse répondre aux besoins de la communauté. Sudaryono a apprécié le programme agricole accéléré mené par le gouvernement de Régence de Banyuwangi qui a favorisé l'émergence de nombreux jeunes intéressés à s'impliquer dans le monde de l'agriculture. Il a également déclaré qu'il était prêt à soutenir les programmes agricoles dans le district situé à l'extrémité et de l'île de Java. Le président général du Conseil central de direction de l'Association indonésienne des producteurs d'huile de palme, DPP Apkasindo, Gulat M.E. Manurung, a déclaré que pas moins de 17 millions d'agriculteurs soutiennent l'idée du président Prabowo Subianto concernant le palmier à l'huile qui doit être protégé ensemble. Gulat M.E. Manurung, dans sa déclaration de lundi, a estimé que cette politique pourrait renforcer le pouvoir de négociation de l'Indonésie sur le marché mondial et protéger les produits à base d'huile de palme contre diverses tentatives de les accaparer sans réglementation stricte. Gulat a ajouté que la productivité de l'huile de palme peut continuer à être augmentée grâce à une intensification telle que le programme de rajeunissement de l'huile de palme des petits exploitants PSR et en une intensification en utilisant des terres dégradées ou abandonné. Gulat suggère d'optimiser davantage les terres dégradées ou abandonnées en abandonnant l'exploitation minière ou en revendiquant les zones forestières qui ne sont plus boisées. Comme le recommandent les résultats des recherches de la Faculté des forêts et de l'environnement de l'IPB en 2023. Bon, chers, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui.
Oh, Chers auditeurs, bonsoir. Voici le commentaire et en pour le titre, le programme des repas nutritifs gratuits, la mesure de soutenir l'avenir de la nation. Aujourd'hui, lundi 6 janvier 2025, le gouvernement indonésien a lancé une initiative majeure fournir des repas nutritifs gratuits, MBG, à 2 millions d'étudiants à travers le pays. Ce programme durera 5 ans. L'objectif est de surmonter le problème de la malnutrition et de créer un avenir plus sain pour la jeune génération indonésienne. Cette initiative implique plus de 1900 coopératives, entreprises villageoises ainsi que diverses autres entités locales. Tous formeront une forte collaboration pour lutter contre la nutrition ou les pénuries alimentaires, renforcer l'économie locale et améliorer la qualité de vie de la communauté. Au cours des 3 mois que dure ce programme, soit de janvier à mars 2025, on estime qu'environ 3,3 millions d'étudiants bénéficieront de prestations. L'objectif à atteindre est de 6 millions d'étudiants à la mi-2025 et pourrait potentiellement couvrir jusqu'à 82 millions de personnes en 2029. Le gouvernement déclare que les bénéficiaires ne sont pas seulement les étudiants de l'éducation de la petite enfance ou PAUD au lycée SMA, mais aussi les femmes enceintes et les jeunes enfants, car ils constituent une partie vitale de l'avenir de la nation. Pour assurer la durabilité de ce programme pour 2025, le gouvernement indonésien a alloué environ 20% du budget de l'État, soit environ 71 millions de roupias. Ces fonds visent à garantir que des aliments nutritifs puissent être distribués chaque jour aux étudiants dans toute l'Indonésie. On estime qu'il existe environ 1000 unités de services de distribution nationale qui travailleront dur pour fournir environ 3000 à 3500 portions de nourriture chaque jour. Chaque portion de nourriture coûte 10 000 de roupias. Mais au-delà de la simple satisfaction des besoins nutritionnels, ce programme joue également un rôle important dans la relance de l'économie locale, en impliquant diverses parties dans la production et la distribution d'ingrédients alimentaires de base tels que les œufs, les légumes, les poissons et le riz. Ce programme devrait créer un cycle économique positif dans les zones rurales et soutenir les MPME. Fournir gratuitement des aliments nutritifs aux étudiants, en particulier aux enfants, constitue un investissement important pour la santé et l'avenir du pays. Ce programme s'attaque non seulement au problème de la malnutrition, mais soutient également le développement scolaire et cognitif des enfants, dans l'espoir que la jeune génération indonésienne soit prête à contribuer au progrès futur du pays. Même si l'enthousiasme pour ce programme est élevé, des défis demeurent, notamment pour assurer une distribution efficace et maintenir la qualité des aliments. Cependant, le programme reflète une vision à long terme du progrès social et économique de l'Indonésie dans le but d'améliorer la qualité de vie de millions de personnes tout en soutenant une économie fondée sur les coopératives dans tout le pays. Il est important de continuer à surveiller et à évaluer l'impact de ce programme. En cas de succès, ce programme pourrait devenir un exemple pour d'autres pays cherchant à lutter contre la faim, à améliorer la santé publique et à autonomiser les communautés locales. Dans l'ensemble, le programme indonésien de repas nutritifs gratuits est une initiative innovante et audacieuse, démontrant l'engagement du gouvernement indonésien à améliorer la santé et le bien-être de sa population. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Histoire d'aujourd'hui avec Audrey. Nous commençons l'Histoire d'aujourd'hui avec les événements du 6 janvier 1912. Le Nouveau-Mexique est devenu un État américain. Le 6 janvier 1912, le Nouveau-Mexique a été admis comme le 47e État des États-Unis. Le Nouveau-Mexique est un État de la région sud-ouest des États-Unis. Cet État est l'un des États des montagnes de la montagne Rocheuse au sud, partageant la région des Four Corners avec l'Utah, le Colorado et l'Arizona. L'État borde également les États du Texas à l'est et au sud-est, l'Oklahoma, au nord-est et partage une frontière internationale avec les États mexicains de Chihuahua et de Sonora au sud-sud. La plus grande ville de Nouveau, le Mexique, est Albuquerque et la capitale de l'État est Santa Fe, la plus ancienne capitale des États-Unis, fondée en 1610 comme siège du gouvernement du Nuevo México et en Nouvelle-Espagne. Chargeur, passons au 6 janvier 1951, massacre de Ganghwa. Le massacre de Ganghwa était un massacre perpétré par les troupes sud-coréennes, les forces de police sud-coréennes et les milices pro-sud-coréennes entre les 6 et le 9 janvier 1951. On estime qu'environ 212 à 1300 personnes sont mortes dans le massacre de Ganghwa, massacre dans la région de Ganghwa de la ville métropolitaine d'Incheon, en Corée du Sud. Les victimes étaient des collaborateurs de l'armée populaire coréenne pendant la domination nord-coréenne. En 2003, un livre d'histoire décrivant le massacre a été publié par le Centre culturel de Ganghwa. Dans le 26 février 2006, les archives nationales de Corée ont reconnu les documents officiels du 30 août 1951 lorsque le procureur général Cho Jin-man a rendu compte du massacre au premier ministre Chang Myon. Le 17 juillet 2008, la Commission Vérité et Réconciliation du gouvernement sud-coréen a reconnu le massacre des civils. Ce jour tard, nous terminons l'histoire d'aujourd'hui avec la commémoration de la journée des orphelins de guerre, chaque 6 janvier. Le 6 janvier est célébré comme la journée internationale des orphelins victimes de la guerre. Cette commémoration est un élan pour se souvenir des enfants qui ont perdu leurs parents lorsque la guerre a éclaté dans leur pays. À noter le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, en 2015, il y a près de 140 millions d'orphelins dans le monde. Cité par National Today, la Journée mondiale des orphelins de guerre a été créée par SOS Enfants en détresse, une organisation française. L'objectif est de faire comprendre et d'inciter davantage de personnes à se soucier davantage de ce problème. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'histoire d'aujourd'hui.
Jatuh di pelukanku. yakin ku sanggup buat kau takjub pada diriku. Matamu, bibirmu membuatku tak berhenti membayangkan dirimu. Buatku tak pernah senangmu, manjamu terus saja buat aku memikirkan dirimu. Oh, tapi kali ini aku merasakan hal yang baru. Ku jadi ragu dan malu padamu. Matamu, bibirmu, membuatku tak berhenti membayangkan dirimu.
Membayangkan dirimu,
senyummu, manjamu, terus saja buat aku memikirkan dirimu.
Dirimu, oh dirimu,
suara dan parasmu,
senyuman manjamu.
Voilà la première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Chers auditeurs, pour le suivant, te voici donc mon Indonésie ayant pour le titre une jeune aventure Indonésie-Chine construit un système de pêche au Molucca et en Papouasie. Le ministre de l'Investissement et des Affaires Navales, en tant que chef du Conseil de coordination des investissements BKPM, Rosan Peruslani, a révélé que les entrepreneurs indonésiens et chinois investiront conjointement des capitaux pour construire un système de pêche intégré au Molucca et en Papouasie. Les engagements pour l'agent Venture comprennent 460 millions de dollars américains de la part de la société chinoise Zhuhaiyongwan Ocean Fisheries. Citant le rapport d'Antara, après en avoir informé le président Prabowo Subianto au palais d'État de Jakarta jeudi 2 janvier, le ministre Rosan a déclaré que les investissements provenaient de quatre entreprises du secteur de la fibre de verre, du secteur des résines PET, puis du secteur des panneaux solaires et dans le secteur de la pêche pour construire un système intégré pour la pêche dans les régions des Moluques et de Papouasie, une entreprise chinoise dans le cadre d'une coentreprise avec une entreprise indonésienne. Citant bkpm.go.id à la mi-décembre 2024, Rosan s'est rendu en Chine pour une visite de travail visant à attirer les investissements. Lors de sa visite, Rosan a reçu des engagements d'investissement d'une valeur de 7,46 milliards de dollars américains de la part de quatre entreprises. Trois autres sociétés se sont engagées à investir en Indonésie, à savoir Hongxi Holding Group pour le développement d'une zone industrielle qui produira des matières premières pour les panneaux solaires, les batteries et les composants, et une centrale à vapeur PLTU d'une capacité de 2 gigawatts. La valeur de l'engagement d'investissement pour le développement de la zone industrielle est de 5 milliards de dollars américains qui seront décaissés par étapes. Un engagement d'investissement a également été fourni par Duxi Group, un producteur chinois de fibres de verre. La société s'est engagée à débourser des fonds d'un milliard de dollars américains pour la première étape. Citant bkpm.go.id, Duxi Group a déclaré qu'il existait une opportunité d'augmentation de la demande de fibres vertes comme alternative pour les toits et que cela était conforme au programme du gouvernement indonésien visant à construire davantage de logements. L'entreprise a également déclaré qu'elle souhaitait investir dans d'autres secteurs tels que l'agriculture et les énergies nouvelles et renouvelables. La troisième société qui s'est également engagée à investir en Indonésie est Wankai New Materials, qui fait partie du groupe Zing. Wankai s'est engagé à investir 1 milliard de dollars américains dans le secteur pétrochimique, notamment dans la production de polyéthylène terephthalate ou PET. L'investissement devrait être classé en trois étapes. Au cours de leur visite, le ministre Hassan Ruslani a exprimé son appréciation et sa volonté de superviser le plan d'investissement, notamment en accélérant l'octroi de permis d'affaires. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Thank you.
chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.it. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Ces auditeurs, Banyuwangi ne manque jamais de destinations touristiques intéressantes. L'une d'elles est la forêt de Djawatan, située dans le village de Benculuk, district de Kluring, Banyuwangi. La forêt de Djawatan de 4 hectares est sous la gestion de Perumperhutani de Banyuwangi du Sud et offre des vues sur les arbres trambésiques géants qui créent une atmosphère magique comme dans un monde fantastique. Les cimes de ces vieux arbres forment de superbes allées naturelles, ce qui en fait l'un des endroits les plus photogéniques des Java orientales. La forêt de Djawatan, qui est officiellement inscrite sur la liste des attractions touristiques de l'Office du tourisme et de la résidence de Banyuwangi depuis juin 2018, se trouve à seulement 45 minutes environ du centre de la ville de Banyuwangi et est très facile d'accès. En plus de profiter de la beauté des arbres trambésiques centenaires, vous pouvez également réaliser diverses activités intéressantes telles que prendre des photos, pique-niquer ou même explorer la forêt à bord d'un chariot ou à cheval. Le matin et le soir, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles crée un effet visuel très spectaculaire, ce qui est en fait le meilleur moment pour visiter. Les installations de la forêt de Djawatan sont assez complètes. Il y a un grand parking, des stands de nourriture proposant des plats locaux, ainsi que des toilettes et des salles de prière pour le confort des visiteurs. Cet endroit convient également très bien aux familles qui souhaitent profiter de l'atmosphère naturelle tout en se relaxant. N'oubliez pas, lors de votre visite, d'apporter un appareil photo pour capturer la beauté de chaque recoin de cette forêt. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Kau gadis, kau gadis. bersama menjalin cinta untuk selamanya. Oh, siapakah dia ada di sana? Hati ini bertanya-tanya. Tak kusangka ku jatuh cinta pada pandangan pertama. Siapakah dia ada di sana? Tuhan, patut ku mengenalnya. Takkan ku minta hal yang lainnya. Hanya engkau gadis, kau gadis di sana.
Hanya engkau gadis, kau gadis di ujung.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Et la rubrique suivante, voici Apprendre l'Indonésien. Bonsoir tous les amis, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'Indonésien qui vous présente des phrases et des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la station de radiodiffusion à l'étranger de RRI, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie de la République de l'Indonésie. Le sujet d'aujourd'hui est Di perusahaan ekspedisi signifie à la compagnie d'expédition. Je vais vous présenter une conversation dont le titre est Per sepeda motor. Je répète, per sepeda motor signifie par moto. Cette conversation a eu lieu entre Chris, un vlogueur australien et employé dans une agence d'expédition dans la ville de Semarang. L'employé a répondu à la question de Chris en l'informant des frais d'expédition de la moto. Écoutons le dialogue.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor.
Après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois. Vous pouvez le répéter après moi. Biaya. Biaya signifie les frais. Pengiriman. Pengiriman signifie l'expédition. Dari Semarang. Dari Semarang signifie de Semarang. Ke Palangkaraya. Ke Palangkaraya signifie à Palangkaraya. 1.300.000 rupiah. 1.300.000 rupiah signifie 1.300.000 rupiah. Per. Per signifie par. Sepeda motor. Sepeda motor signifie la moto. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya Rp1.300.000 per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya, 1.300.000 rupiah par moto. Berapa biaya? Berapa biaya? Signifie combien ça coûte? Mengirim. Mengirim signifie envoyer. Dans la conversation, vous entendez la phrase biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Jerapat? Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor. Signifie le frais d'expédition de Semarang à Palangkaraya 1.300.000 rupiah par moto. Dans cette phrase, il y a une expression per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto. Le mot per signifie par, c'est-à-dire chacun ou un, fonctionne pour marquer le nombre de motos, ce qui signifie une moto. L'expression per sepeda motor. Per sepeda motor signifie par moto, signifie chaque ou une moto. Écoutons un autre exemple d'utilisation du mot per. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Biaya anggota di pusat kebugaran ini per bulan 100.000 rupiah. Signifie le frais d'adhésion mensuel à ce centre de remise en forme sont 5.000 rupiah. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Harga tiket bioskop 50.000 rupiah per orang. Signifie prix du billet de cinéma 50.000 rupiah per personne. En Indonésie, le terme désignant un véhicule motorisé à deux roues est sepeda motor, ce qui signifie la moto. Cependant, la majorité des Indonésiens appellent sepeda motor un motor. Motor, ce qui signifie la moto. Dans certaines régions, il y a aussi des gens qui appellent les motos un kereta. Kereta. Cela veut dire le train. En fait, il y a aussi ce qu'il appelle une certaine marque de moto. Avant de terminer à apprendre l'indonésien d'aujourd'hui, écoutons encore une fois la conversation.
Saya ingin mengirim sepeda motor saya ke Palangkaraya. Berapa biayanya?
Biaya pengiriman dari Semarang ke Palangkaraya 1.300.000 rupiah per sepeda motor.
Chers amis, voilà l'émission Apprendre l'indonésien d'aujourd'hui. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous en savoir plus sur la langue indonésienne. Nous nous rencontrerons dans la prochaine édition avec les différents sujets. Au revoir!
Warm like mist.
Chers auditeurs, voilà la dernière chanson que vous écoutez. Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est temps pour l'émission de magazine musical avec Maudry. Dans cette édition, nous vous présentons la chanson crunchon intitulée 1984, chantée par le groupe rock punk Superman's Dead. Sachez tard, cette chanson créée par Igede Ariastina ou connue de Jerinx et Roy Parsua est sortie via les plateformes de lecteurs vidéo numériques le 28 novembre 2024. Inspirée du roman dystopique 1984 de George Orwell, cette chanson est un hommage à la liberté individuelle et collective que les oligarques locaux et mondiaux veulent nous priver à cause des épidémies et des catastrophes naturelles. Bonjour, Gétard, voici Superman is Dead. On va chanter une chanson intitulée 1984. Bonne écoute.
Selamanya.
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Au revoir.